Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie, la radio de l'Institut de France. Nous sommes le 2 mai 1598 à Vervin, au nord-est de Laon, dans cette petite ville de l'Aisne, est signé un traité entre le roi de France, Henri IV, et le roi d'Espagne, Philippe II. Paix signée entre princes catholiques exclusivement, l'événement a été occulté en France par l'édit de Nantes qui ramène donc la paix civile entre les protestants et les catholiques. Pourtant, la paix de Vervins constitue un des événements majeurs du XVIe siècle puisqu'elle ouvre une période de pacification en Europe dans la continuité de la paix de Cateau-Cambrésis en 1559, ceci sous l'influence romaine. En ce siècle finissant, bien des choses ont évolué depuis le règne de François Ier. L'émission « Un jour dans l'histoire » qui se plaît à souligner les périodes de transition est ici comblée. Paradoxalement, malgré l'influence pacifique de Rome, les dogmes sont absents à Vervins. Un droit des gens s'établit, surtout une invention voit le jour, celle de la diplomatie. Certes, le thème n'apparaît qu'à la fin du XVIIIe, mais les prémices de cette institution remontent précisément au début du XVIe siècle, alors que les nations sont inexistantes et que seules les relations entre les princes dominent l'Europe. Je vous propose aujourd'hui de partir à la découverte de cette naissance et de cette croissance de l'institution diplomatique. Quand apparaît l'ambassadeur? D'où vient-il? Constitue-t-il un risque pour un pays ou au contraire un atout majeur? Comment se créent les ambassades permanentes? À quels besoins répondent-elles? Comment sont-elles utilisées par les rois et leurs ministres? Est-ce un atout, au fond, d'être loin de son prince au siècle des cours? C'est ce que je vous propose de découvrir avec Lucien Belli. Lucien Belli, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'histoire moderne à l'Université Paris IV Sorbonne, auteur de nombreux ouvrages sur les relations internationales et sur la diplomatie. Je me contenterai d'en citer deux. Tout d'abord, un ouvrage que vous avez dirigé qui fait suite à un colloque qui a eu lieu en 1998, l'Europe des traités de Westphalie, Esprit de la diplomatie et diplomatie de l'esprit. Un ouvrage paru chez PUF avec un avant-propos d'Hélène Carrère-Dancausse et une introduction de Marc Fumaroli, tous les deux de l'Académie française. Et un deuxième ouvrage que vous venez de publier, L'art de la paix en Europe, naissance de la diplomatie moderne, donc entre les 16e et 18e siècles, un ouvrage paru également au PUF. Alors, j'évoquais les relations internationales dans mon propos, alors que finalement, au début du XVIe siècle, on ne peut pas vraiment parler de relations internationales parce que cela suppose l'idée de nation, alors que les nations sont inexistantes. On parlera davantage de relations entre les princes.
Oui, on peut considérer que l'Europe ancienne est plutôt une société de princes, c'est-à-dire un ensemble plus ou moins cohérent d'unités qui sont incarnés par des princes. Alors ça, ce sont parfois de grandes puissances, comme la France, parfois au contraire de toutes petites principautés. Il ne faut pas trop personnaliser les choses, c'est-à-dire que derrière le roi de France, il y a la France, c'est-à-dire un royaume qui lui permet d'avoir une armée grâce à l'impôt. Néanmoins, on peut dire que les relations se dessinent, se structurent, se définissent à travers les relations interprincières, c'est-à-dire la façon dont chaque prince se situe par rapport aux autres sur, je dirais, un théâtre du monde. C'est un peu la métaphore qui va s'imposer à partir du XVIIe siècle. Ce sont des acteurs sur le théâtre du monde. Alors, en effet, il y a eu, surtout au début du XVIIe siècle, encore la tentation de régler ces affaires politiques de prince à prince, dans des entrevues où finalement on reviendrait à une sorte de pureté de la relation, à un dialogue personnel, comme au camp du Godrador. En réalité, on s'est aperçu que c'était très dangereux. D'abord, il peut toujours y avoir des attentats. Un prince prisonnier, c'est la ruine d'un État. Et puis aussi, généralement, ces entrevues ont échoué, n'aboutissent pas à des traités, n'aboutissent pas à des accommodements durables. Donc, le prince est obligé d'assumer une forme d'échec. Or, c'est impossible. Un prince a toujours raison, un prince a toujours le succès derrière lui vis-à-vis de ses sujets. Donc, il était impossible d'insister sur cette relation directe entre les princes, ce dialogue entre les souverains. Néanmoins, on voit bien que c'est resté, dans les premières décennies du XVIe siècle, une sorte d'idéal qu'on verra réapparaître beaucoup plus tard, je dirais de nos jours, où finalement les chefs d'État se rencontrent, même si, bien sûr, ces rencontres sont préparées. C'était probablement aussi le cas au XVIe siècle, il ne faut pas exagérer, on le voit bien au moment de la rencontre du drap d'or. Il y a des négociations dans les coulisses, il y a des hommes d'État qui discutent, qui essayent de trouver des accommodements. Néanmoins, progressivement, on en arrive à l'idée que le prince ne doit pas se risquer au dialogue direct. Il faut passer par des intermédiaires, par des agents spécialisés.
Alors, vous parlez, vous utilisez plusieurs termes, l'amitié, la cordialité, les faux-semblants. Est-ce un échec finalement de l'esprit chevaleresque en ce XVIe siècle naissant qui doit être remplacé par ce qu'on appellera plus tard la diplomatie ?
Oui, si vous voulez. C'est-à-dire que très longtemps, l'Europe a vécu sur des rêves d'unité. L'unité,
voulue par Rome.
Voilà. C'est un peu l'âge d'or. Il y a eu la paix. Il y a eu la paix dans l'Antiquité. L'Église a hérité d'une partie de cette idée de paix, de concorde entre les hommes. Et puis, il y a eu aussi un empire. Ne l'oublions pas, il y a un Saint-Empire, mais qui est essentiellement de nation germanique, c'est-à-dire qu'il couvre un grand espace sur l'Europe centrale. Donc, on pense qu'il peut y avoir une forme de gouvernement général de l'Europe. Et là, l'empereur a échoué, il n'a pas imposé son autorité sur toute la chrétienté, puis le pape lui-même n'a pas réussi non plus à imposer la paix entre les princes chrétiens. Donc, cette construction verticale de l'Europe s'écroule définitivement au XVIe siècle, d'autant plus que la réforme casse la chrétienté romaine, fait qu'il y a désormais deux chrétienté, un monde catholique et un monde protestant. Donc le pape ne peut plus proposer ou imposer ses arbitrages. Tout au plus pourra-t-il être médiateur. Mais encore, à Vervins, il y a un légat du pape, donc en quelque sorte l'image même du souverain pontife qui vient présider des discussions entre deux princes catholiques. Il s'agit de restaurer la paix entre deux princes catholiques. Catholique. Et ça, c'est encore dans la vocation du souverain pontife.
Est-ce qu'il y a, en ce XVIe siècle, une urgence dans le fait de trouver une autre solution, justement, pour remplacer ces entrevues royales ? Et au fond, comment et d'où viennent ces ambassades et ces ambassadeurs ?
Alors, je crois qu'il ne faut pas considérer qu'il y a eu brutalement une invention de la diplomatie. La diplomatie existe depuis que l'homme est homme et on a dû négocier dans les États de l'Antiquité. Il y a eu des ambassadeurs, il y a eu en permanence des structures et des pratiques politiques de la négociation. Simplement, on peut dire qu'au XVIe siècle, on commence à réfléchir, surtout, je dirais, du côté des grandes puissances, à la possibilité de maintenir en permanence une forme de dialogue. Alors, on sait bien que toutes ces pratiques, toutes ces inventions se sont faites en Italie. Les premiers résidents permanents apparaissent en Italie au Moyen-Âge. L'idée qu'il faut avoir un agent chez le prince voisin, ça c'est une idée très importante. L'Italie est un laboratoire politique pour les idées, pour les pratiques, pour les structures. Et nous sommes ici à l'Institut, n'oublions pas que le modèle même, le produit même de cette Italie politique, c'est le cardinal Mazarin, un homme issu justement de la diplomatie pontificale que la France fait venir pour régler ses grands problèmes au XVIIe siècle. Donc il y a un modèle italien et c'est là qu'on a commencé à penser qu'il devrait y avoir des ambassades permanente. Néanmoins, très longtemps, il y a, surtout chez les grands princes, une forme de prudence et même de dédain ou d'inquiétude. Un ambassadeur, c'est toujours le regard de l'ennemi, d'un ennemi possible. C'est un espion en puissance, c'est un homme généralement qui est un grand seigneur, qui s'installe, qui peut rester longtemps, et c'est plutôt un inconvénient ce séjour. Donc il a fallu en quelque sorte apprivoiser l'idée d'ambassade permanente, la faire entrer progressivement dans les usages. Et ça s'impose au XVIe siècle, dont nous venons de le voir, parce que justement, on considère que le dialogue direct est encore plus délicat, plus dangereux. Et puis aussi parce qu'on se rend compte que l'on a bien besoin de dialogue et de diplomatie. Je dirais qu'au XVIe siècle, à mon avis, la diplomatie, c'est souvent le recours de princes en difficulté. On utilise la négociation quand on se sent finalement dans une situation difficile. La France des Valois, pendant les guerres de religion, n'a pas cessé d'avoir une grande diplomatie. Catherine de Médicis, qui a affronté des combats, des guerres internes, des guerres civiles, a passé son temps à négocier des mariages pour ses enfants, à les utiliser en quelque sorte comme des sortes de pièces majeures dans le dialogue international, à les offrir en quelque sorte comme des moyens d'établir des liaisons avec des princes voisins. Donc la diplomatie, c'est souvent, me semble-t-il, au XVIe siècle, le moyen de compenser une faiblesse internationale. Ce qui sera très différent d'une situation au XVIIe siècle, où au contraire, la diplomatie sera un outil de la puissance. Donc finalement, on voit bien que, nous avons parlé de Vervins, la France des guerres de religion entretient souvent des agents dans des pays qui ne sont pas forcément très puissants, mais des pays qui lui sont utiles. Par exemple, les cantons suisses. Parce qu'en Suisse, on recrute des soldats et on peut trouver éventuellement de l'argent, des prêts utiles pour la monarchie. Et Henri IV aura lui aussi beaucoup d'attention pour les cantons suisses. Donc ce n'est pas une grande puissance, mais c'est une puissance proche, utile, un interlocuteur important pour une grande puissance.
Quel est le pouvoir de ces ambassadeurs en cette fin de XVIe siècle ? Est-ce qu'ils représentent, puisque le pouvoir, c'est le souverain qui le possède ?
Ce qui est intéressant, nous avons quelques études sur ce choix des ambassadeurs. On voit bien que les souverains du XVIe siècle ont tendance à employer des proches, parfois un favori, c'est-à-dire un homme de poids qui conseille le prince, qui vit avec lui. Il utilise beaucoup des hommes de son entourage, des gentilshommes de la chambre, c'est-à-dire des hommes qui sont à son service domestique, donc il connaît et dont il peut s'assurer la discrétion, la fidélité. C'est très important. Il faut qu'un envoyé sache se taire, sache résister à la corruption, sache être fidèle. Donc, il faut quelqu'un de connu du roi. Donc, ils choisissent des proches. Les souverains du XVIe siècle utilisent aussi souvent des prélats, des hommes d'église. D'abord, parce que ce sont des hommes qui ont une forte éducation, qui savent écrire, qui peuvent éventuellement rédiger des textes en latin. Les traités sont souvent rédigés en latin. Et aussi parce que, c'est un moyen de les payer. L'Église leur assure un train de vie à travers les abbayes ou à travers les évêchés. Donc, ils ont de quoi vivre à l'étranger. C'est une des grandes questions de la diplomatie. Comment payer un ambassadeur ? Et finalement, ce sont les grandes puissances qui peuvent payer un ambassadeur pendant plusieurs années à l'étranger. Ça représente un certain investissement. N'exagérons pas. Quand on a des comptes, on voit bien que la diplomatie, c'est finalement un poste relativement léger dans les dépenses d'un État, et en particulier d'un grand État comme la France. Néanmoins, beaucoup de princes sont aux abois financièrement, donc ils n'ont pas les moyens d'entretenir un ambassadeur à l'étranger. Donc souvent, on choisit aussi un homme riche, quelqu'un qui peut par lui-même avancer l'argent et que l'on récompensera à son retour, soit par des dignités, soit par des honneurs, soit par des fonctions ministérielles, soit par, justement, si c'est possible, des abbayes ou des évêchés. Donc il y a encore un jeu très intéressant entre l'Église comme institution et le monde diplomatique. Ceci va s'étioler à partir de la réforme tridentine, le concile de Trente au XVIe siècle, et surtout à mesure qu'il s'impose à l'Occident catholique, eh bien, le concile de Trente considère qu'un évêque ne doit pas quitter son diocèse, il doit s'occuper de des âmes, donc il est tout à fait dangereux et contraire aux règles de l'Église d'envoyer un évêque s'occuper d'affaires politiques à l'étranger. Alors, on voit bien néanmoins que cette protection continue. Ce n'est pas un hasard si plusieurs premiers ministres, en France et également en Espagne, ont été des cardinaux. C'est aussi une façon de leur donner une sorte de prééminence sociale. Puis c'est aussi une forme de défense, de protection. C'est-à-dire qu'un homme qui s'occupe d'affaires politiques est protégé par la pourpre.
Je reçois Lucien Belli, professeur d'histoire moderne à la Sorbonne et auteur du livre « L'art de la paix en Europe » paru aux presses universitaires de France. Nous nous retrouvons dans quelques secondes.
Marguerite Yourcenar fut la première femme écrivain élue à l'Académie française. Canal Académie consacre 4 grandes émissions aux différents aspects de son talent, son œuvre romanesque, son érudition et son travail de traductrice. Marguerite Yourcenar, une citoyenne du monde, 4 émissions sur Canal Académie.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à l'institution diplomatique, sa naissance et sa croissance. Alors précisément, nous avons évoqué son développement au XVIe siècle. Comment se passaient, Lucien Belli, ces négociations ? Étaient-elles davantage écrites ou bien orales ? Et vit-on encore dans une civilisation de l'oral, puisque nous évoquions tout à l'heure la chevalerie, qui est avant tout une civilisation de l'oral ? Est-ce que nous glissons vers l'écrit ?
C'est probablement assez difficile à préciser pour le XVIe siècle. Les négociations conservent une grande part d'oralité. Néanmoins, il faut bien considérer que la rédaction d'un traité demande beaucoup de temps, surtout s'il est en latin. Donc, il faut supposer, je l'ai déjà évoqué tout à l'heure à propos même des rencontres entre princes, il faut supposer des secrétaires qui se chargent de préparer des formes de brouillon, de texte, de manière à ce qu'on soit toujours prêt à signer. Alors, on ne sait pas quand viendra la décision. Parfois, on discute sur une ville, sur un détail, et c'est là que tout achoppe. Donc, il faut néanmoins être en quelque sorte prêt, lorsque la dernière concession sera faite, à ce que l'on puisse en quelque temps boucler la rédaction du traité, mettre les sceaux et envoyer cela au prince pour obtenir sa ratification. Il faut très tôt supposer des spécialistes. Alors, cela implique aussi, vous le voyez, des juristes, des techniciens, des hommes qui maîtrisent des sujets extrêmement difficiles. Imaginez toutes les négociations dans l'Empire, dans le Saint-Empire, où le droit public est extrêmement complexe. Il faut être très averti. Et justement, on manque, par exemple, en France, de bons spécialistes. Néanmoins, il y en a quelques-uns. Et par exemple, c'était une longue discussion à propos de l'Alsace, de l'acquisition de l'Alsace au moment de Westphalie. On a dit parfois que ça avait été difficile parce que la France manquait de bons juristes. Et on s'aperçoit en réalité que, d'une part, la délégation française disposait d'un bon juriste, Théodore Godefroy, bien averti des affaires d'Allemagne, et puis surtout que certains flous dans l'expression, certaines imprécisions sont parfois volontaires. Les juristes sont assez subtils
pour laisser
les choses en suspens, en ayant l'idée que les événements, le rapport de force fera la différence. Et au moment de Westphalie en 1648, le roi de France obtient les droits de la maison de Habsbourg en Alsace. 50 ans plus tard, l'Alsace est une province pratiquement comme les autres. Il a fallu, vous voyez, l'histoire de 50 ans, un demi-siècle, pour en quelque sorte intégrer ce territoire majeur dans le royaume de France.
Alors, relation écrite, il y a une autre relation écrite entre le prince et son ambassadeur. et elle s'exprime par le chiffre. C'est une chose assez étonnante, c'est que le chiffre arrive très tôt.
C'est-à-dire qu'il faut bien maintenir des relations avec le pouvoir souverain. Et vous voyez, quand on regarde certaines grandes paix européennes, vous avez cité Cateau-Cambrésy, Vervins, ce sont des paix qui se négocient sur la frontière nord du Royaume de France, au contact des Pays-Bas espagnols. C'est-à-dire qu'en réalité, les négociateurs du roi d'Espagne ne demandent pas son avis finalement au roi d'Espagne, qui est trop lointain. Ils demandent l'avis aux représentants qui gouvernent les Pays-Bas espagnols. C'est une négociation proche, sur les frontières. Donc, il faut avoir d'abord des instructions relativement larges, qui précisent en quelque sorte le programme politique, je dirais, pour plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et ces instructions, en quelque sorte, déterminent l'attitude du négociateur. Alors ça, c'est finalement leur grande sécurité, des instructions bien rédigées. Mais notons que parfois, les instructions sont relativement vagues. Donc il faut en permanence, néanmoins, en référer à une autorité souveraine qui tranchera. Et là, il faut maintenir des correspondances. De là aussi, l'importance, vous voyez, sur cette frontière du Nord, ou plus tard, certaines villes le long du Rhin, ou proche du Rhin, ou dans les négociations en Hollande, dans des zones très développées, il faut disposer de réseaux postaux, de réseaux routiers, des supports du commerce, en quelque sorte, qui permettent d'appuyer la négociation, qui permettent finalement une bonne correspondance. Cette correspondance, lui donner une sorte de sécurité, parce qu'il est très tentant d'arrêter des courriers, de lire les lettres. Donc, toute une réflexion qui commence au XVIe siècle, en particulier avec Wigner et bien d'autres, sur le secret, maintenir le secret. C'est finalement une grande préoccupation, mais qui va jusqu'à nos jours. L'informatique est aussi fondée sur des règles de secret, de transposition numérique, et c'est finalement la clé de ces langages codés. Et finalement, souvent, je l'ai dit comme ça, la diplomatie, c'est aussi un langage codé. Il y a tout un travail de rédaction, puis de chiffrement, avec des chiffreurs, des déchiffreurs, puis vous avez également dans le camp ennemi des gens qui essayent de décrypter, de découvrir, de casser les chiffres. Mais en même temps, l'ensemble de la diplomatie est aussi un langage symbolique, avec des gestes, des mots qui ont une grande signification, qui n'est pas forcément la signification que tout le monde comprend. C'est un langage de convention. Et finalement, c'est comme ça que les princes se parlent. Je parle souvent de la diplomatie comme langue des souverains. Je crois que c'est très fort. C'est un langage politique entre des entités qui progressivement sont des États, plus tard qui seront des nations. C'est une façon de se parler. Et cette notion même apparaît, il est nécessaire de se parler. J'ai beaucoup étudié la paix d'Utrecht au début du XVIIIe siècle. Un des intermédiaires secrets dit « il est important de se parler ». La diplomatie, c'est finalement le moment où on recommence à se parler. C'est-à-dire qu'après l'épreuve de la guerre, après le fracas des armes, lorsque finalement il n'y a pas de solution, parce que la guerre ne donne jamais une solution très claire. Donc, le rapport de force a un peu évolué et il faut le transcrire diplomatiquement, par des concessions, par des réorganisations, des tracés de frontières, parfois des échanges de provinces, parfois progressivement on changera les princes. Hein. Il y aura une sorte de balayage des princes ambulants, en quelque sorte, qui passera de souveraineté en souveraineté. Et l'on voit bien que à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle, la diplomatie c'est aussi une prudence des princes, c'est-à-dire un moyen d'établir une forme de paix, d'essayer de trouver la paix. Le problème, c'est que cette paix se révélera très fragile au XVIIe siècle et qu'en réalité, tout le XVIIe siècle est un temps de guerre. Mais il y a eu un rêve de paix, une réflexion sur l'ambassadeur. Le traité de Jean Hautement, par exemple, d'Hautement de Villiers, est très révélateur. Comment trouver les bonnes méthodes, les bonnes pratiques.
On théorise, en quelque sorte.
On théorise les pratiques, les pratiques diplomatiques. Et vous voyez, c'est aussi, finalement, un métier politique. Quelqu'un qui est capable de parler au nom du roi de France. Mais pas le roi de France comme Henri IV comme individu, mais le roi de France incarnant 20 millions de Français. Et ça, c'est pas si facile de trouver les mots pour parler au nom du roi de France.
Alors, dans votre propos, je retiens l'émergence, hein, vous disiez tout à l'heure, de l'État-nation, puisque se substitue à une vision religieuse une francité. On peut parler de francité.
Oui, c'est une notion intéressante.
En tous les cas, concernant notre pays.
Pour notre pays, c'est intéressant. Mais je pense qu'en effet, j'ai parlé tout à l'heure de vision verticale. Progressivement, au XVIe siècle, et puis bien sûr, alors au XVIIe siècle, on a une vision très, très horizontale. C'est-à-dire que comme l'on n'a plus d'autorité supérieure, le pape n'a plus les moyens de proposer son arbitrage à tous les catholiques. Il est le père commun des princes catholiques, mais pas des puissances protestantes. Donc, il peut tout au plus être médiateur. L'empereur impose sa parole essentiellement, propose ses solutions dans l'espace germanique. Donc il y a vraiment des unités plus ou moins grandes qui sont presque à égalité et qui essaient d'éviter la guerre ou de limiter la guerre. Alors d'abord, ce qu'il faut bien voir, c'est que les grandes puissances ne sont pas forcément les plus belliqueuses. Des chercheurs ont bien montré que ceux qui font la guerre, qui souvent sont des causes de guerre, sont les petits princes pour leurs affaires qui appellent au secours une grande puissance. Et les grands princes, au contraire, les grandes puissances disent « Alors, essayons de régler ». C'est comme ça que Mazarin, d'ailleurs, se fait connaître de toute l'Europe, en réglant un peu par miracle une horrible affaire en Italie du Nord, la succession de Mantoue, où finalement la France et l'Espagne, qui ne veulent pas la guerre, se trouvent au bord de la guerre. Il va y avoir un combat et brutalement un cavalier romain resté sur place, un envoyé pontifical, réussit ce miracle d'arrêter le combat. Et du jour au lendemain, tout le monde connaît Mazarin parce qu'il a fait un petit miracle avec sa dextérité, un miracle favorable à la France, il faut bien le dire, mais les Espagnols ne l'ont pas compris tout de suite. En tout cas, vous voyez, c'est cette idée d'éviter les guerres, d'éviter les trop grandes guerres, d'éviter les guerres trop longues. Et progressivement, vous le voyez, ça c'est une pratique, la diplomatie est une pratique politique, est un discours politique. Il y a aussi toute une réflexion juridique, et c'est l'affirmation du droit des gens. Du droit des gens qui, vous le voyez, est né probablement beaucoup plus dans le monde catholique, par exemple en Espagne, autour de l'école de Salamanque, mais qui progressivement passe dans le monde protestant, autour de Grotius. Et vous voyez, c'est bien là l'idée d'un protestant qui cherche le moyen de conduire protestants et catholiques à un langage commun, raisonnable, une raison politique. Je parle souvent du triomphe de la raison politique. Je crois que la diplomatie, c'est aussi ça. C'est le triomphe de la raison politique.
C'est très intéressant parce que vous parliez tout à l'heure du besoin de se parler dans la diplomatie. Et certains, au fond, considèrent l'époque comme un âge malheureux. Vous citez le juriste Carolus Pascalus qui parle du malheureux produit d'un âge malheureux. C'est un sentiment négatif de cette unité de la chrétienté brisée.
Voilà, vous voyez, finalement, jusqu'au moins au milieu du XVIIe siècle, les Européens se pensent comme dans une situation de déclin. L'âge d'or, c'est finalement l'Empire romain, lorsqu'il y avait une forme d'unité, lorsque la paix était générale, la paix romaine, on en rêve encore. Et ça reste une sorte d'idéal, alors bien sûr adapté par l'Église romaine, mais ça reste une forme d'idéal. Et on voit bien que l'on achoppe sur des guerres incessantes. Et c'est vrai que le XVIIe siècle est un temps... Pascal, ce Pascal que vous citez, a écrit avant le XVIIe siècle, mais il avait finalement dessiné une forme de vue prophétique. Le XVIIe siècle est par excellence un temps de guerre, d'affrontement, de guerre parfois totale, de guerre parfois limitée. Mais en tout cas, c'est un temps où finalement les pays européens se construisent comme des puissances militaires. Les États en profitent. N'exagérons pas, les sujets participent à la guerre indirectement. Nous ne sommes pas encore...
Par les impôts.
Voilà. Et on voit bien, la France du XVIIe siècle a connu un bond de la fiscalité au temps de Richelieu. C'est-à-dire qu'on apprend aux Français à payer beaucoup pour des armées qui sont les plus grandes organisations que l'on ait jamais connues. L'armée au temps de Louis XIV, c'est une immense organisation. Et ça a commencé très tôt. Elle s'est mise en place plusieurs décennies auparavant. Donc, il y a eu à la fois gonflement de l'État, d'une forme de militarisation de l'État, une forme de nationalisation de l'État et des intérêts de l'État. C'est-à-dire que Louis XIV, dans les plus grands temps de difficultés, en appellera à ses sujets. Une forme d'appel au sentiment national. Alors ça existe depuis le Moyen-Âge. La nation France, on le sait bien, est née sans doute bien avant. Mais néanmoins, on voit bien qu'à travers la guerre, et à travers la guerre permanente, c'est une forme de construction d'un État national autour d'un roi guerrier.
Alors justement, Lucien Belli, est-ce que la guerre ne remet pas en cause le rôle de l'ambassadeur ? C'est ce que je vous propose de voir dans quelques secondes.
Dans sa médiathèque, Canal Académie vous donne rendez-vous avec Alain Decaux. Comment lui est venu le goût de l'histoire ? Quel est son point de vue sur l'objectivité historique ? Quels sont ses combats ? Quelles sont ses fiertés ? Ses projets ? Alain Decaux se livre en toute vérité. Et quand il raconte, on retrouve le Decaux que nous avons tous aimé écouter à la télévision, à la radio. Alain Decaux est sur Canal Académie.
Je reçois Lucien Belli, auteur de « L'art de la paix en Europe, naissance de la diplomatie moderne entre le XVIe et le XVIIIe siècle », un ouvrage paru au PUF. Alors, nous avons évoqué Lucien Belli, ce XVIe siècle, mais finalement, nous sommes arrivés à la conclusion que la paix a été un échec, puisque le XVIIe siècle dans lequel nous passons est marqué par ces guerres. Et est-ce qu'au fond, le rôle de l'ambassadeur n'est pas remis en cause par ces guerres ? Est-ce qu'on ne se dit pas, au fond, à quoi sert cet ambassadeur dans la mesure où il n'arrive pas à maintenir cette paix ?
Alors, je crois que c'est le contraire. Je crois qu'au contraire, les guerres devenant très longues, l'idée, c'est qu'il faut négocier. Et progressivement, dès le début d'une guerre, on commencera à envisager les moyens de négocier. En plaisantant, c'est plus une plaisanterie qu'une réalité, on disait qu'on se battait en été et on négociait en hiver. Alors à certains moments, ce n'est pas si faux. On attend finalement de voir le résultat de la campagne pour considérer si l'on doit faire les concessions définitives. Il y a plutôt, je dirais, une association de la diplomatie et de l'art militaire. C'est au moment finalement où une puissance est la plus grande que l'on construit le réseau de diplomates le plus cohérent et le mieux établi. La diplomatie est vraiment une autre façon de dire la puissance. Et ça, c'est un changement du XVIIe siècle. Ça a été vrai pour l'Espagne, qui a eu un réseau très bien formé, très, très établi au début du XVIIe siècle. C'est vrai pour Louis XIV, dont les ambassadeurs ont souvent parlé haut et fort, c'est-à-dire finalement, ils préparent aussi la guerre. Soit ils proposent des alliances, soit ils imposent une neutralité, soit ils menacent et s'en vont après la menace. Et puis ce sera au XVIIIe siècle, la présence anglaise diffuse, mais pratiquement une présence dans toute l'Europe. Donc je crois que progressivement, la diplomatie, dans une forme d'association, devient un outil pour les grandes puissances. Alors qu'au XVIe siècle, plutôt, je voyais là une sorte de recours de la faiblesse, ça devient désormais un instrument de la force.
Nous arrivons au fameux traité de Westphalie. Hein. Nous sommes en 1648. Nous venons d'en fêter l'anniversaire en 1998. Un anniversaire dans lequel vous avez été très engagé, hein, puisque je rappelle à nos auditeurs que vous avez dirigé le livre « L'Europe des traités de Westphalie » aux presses universitaires de France. C'est un point d'orgue dans l'histoire de la diplomatie.
Alors, je crois que pour l'histoire de l'Europe, c'est un moment considérable. On parle d'ailleurs souvent d'une sorte de constitution de l'Europe. La paix de Westphalie, d'abord, marque une étape fondamentale pour la diplomatie, c'est l'idée qu'il faut des congrès. Marc Fumaroli avait insisté sur ce passage du concile au congrès. On cherche encore le mot au moment de Westphalie, on parle de concile politique. Le mot congrès ne s'impose qu'à la fin du XVIIe siècle, c'est-à-dire des moments où les représentants de pratiquement toutes les puissances européennes se regroupent. On fait attention d'ailleurs à établir des règlements de manière à éviter les incidents. Progressivement, on arrivera à l'idée de pêle-mêle, c'est-à-dire qu'on doit s'asseoir un peu à égalité. C'est-à-dire que tous les acteurs se soumettent à des règles pour revoir tous les problèmes européens. Une sorte de table rase pour construire le monde futur. Alors, on est bien conscient que ça ne durera peut-être pas très longtemps, mais au moins, on a l'idée d'une étape importante. Et Westphalie, en cela, est une étape fondamentale en particulier pour une grande partie d'Europe, disons l'Empire, le Saint-Empire, puisqu'on reconnaît une forme, d'abord plusieurs confessions, hein, c'est-à-dire une sorte de coexistence religieuse. On reconnaît également une carte religieuse de l'Europe fixée en gros à 1624, c'est-à-dire que désormais, la religion ne devrait plus, la confession, le choix confessionnel, ne devrait plus être une occasion de guerre internationale. Et vous voyez bien là, c'est fondamental. C'est qu'on quitte l'idée de guerre internationale fondée sur le choix confessionnel. Alors il y aura encore des conflits religieux internes au pays, il y aura encore des frictions autour de la confession, mais disons que le choix confessionnel est second parce qu'on fixe en quelque sorte la carte européenne, la carte religieuse de l'Europe. Et ça, c'est un élément considérable, puisque désormais, vous le voyez aussi, c'est la primauté du politique sur le religieux qui l'emporte.
Oui, donc c'est véritablement la fin de l'idée d'unité chrétienne.
Et en effet, c'est le paradoxe, c'est que cette paix de Westphalie a été en grande partie négociée grâce à la médiation pontificale du nonce Kidji, et le pape est amené à dénoncer cette paix de Westphalie parce que justement, elle fixe en quelque sorte l'idée qu'il y a plusieurs confessions en Europe et que l'unité chrétienne n'est pas possible. Alors, bien sûr, certains penseront qu'il est toujours possible de rapprocher les points de vue. Donc, on pourra toujours avoir une solution religieuse. Mais en tout cas, il ne devrait plus y avoir de conflit entre puissances sur le critère religieux. Alors, il y aura quelques exceptions, mais disons que cette évolution est importante. Et en même temps, vous le voyez, c'est une certaine vision de l'Europe qui s'est imposée. Une Europe très diverse. Un Saint-Empire qui n'est pas uni. Et qui n'est pas l'Allemagne. Et Henry Kissinger, le ministre de Nixon, dans un livre qui s'appelle « Diplomatie », dit que finalement Richelieu, et à travers lui, au-delà de lui, la paix de Westphalie, a retardé l'unité allemande de 2 siècles.
C'est-à-dire que c'est une paix française pour lui ?
Alors pour lui, c'était une paix favorable à la France. Mmh. Très longtemps, en particulier au 19e siècle, au début du 20e siècle, cette paix apparaîtra comme une paix honteuse, un peu comme la paix de Versailles. Hitler cherchera à s'emparer du traité de Westphalie, comme il cherchera à mettre la main sur le traité de Versailles. Parce que ça paraît comme un affaiblissement de l'Allemagne, un retard pour la nation allemande. L'étonnant, c'est qu'à la fin du XXe siècle, la vision a été totalement transformée, en particulier chez nos voisins allemands et nos amis allemands, qui ont considéré finalement que cette paix de Westphalie était aussi une paix d'équilibre, avec une forte identité, comme la Bavière ou le Brandebourg, des unités politiques, et finalement des unités politiques qui étaient viables. On pouvait connaître une vie tranquille, heureuse, dans ces unités régionales, même s'il n'y avait pas à ce moment-là une grande puissance allemande. Alors, bien sûr, dans la vision française, au contraire, ça a été l'idée qu'il fallait justement maintenir cette diversité dans le centre de l'Europe pour éviter la naissance d'une grande puissance. La France y a gagné, et c'est aussi un motif de friction avec l'Allemagne, y a gagné l'Alsace, gagné l'accès sur le Rhin. Mais en même temps, vous voyez, ça a été une sorte de ligne politique qui s'est établie au temps de Richelieu, l'idée qu'il fallait défendre les libertés de l'Allemagne.
En défendant les princes protestants.
Voilà, en défendant également, mais pas seulement, tous ces petits princes, également l'électeur de Bavière, c'est-à-dire toutes ces unités qui maintiennent en quelque sorte une forme d'équilibre pour la France. Alors, la France en profitait, mais vous voyez, derrière cette idée d'équilibre, c'est aussi une idée qui s'imposera plus tard au XVIIIe siècle. Il faut éviter toute prépondérance, toute puissance prépondérante, essayer d'établir une forme de balance de l'Europe, ce sera le mot anglais, hein, la balance de l'Europe. Et là encore, c'est une notion née en Italie, entre les petits princes italiens. La paix italienne, c'est une balance entre les princes italiens, et bien ça deviendra un modèle européen, établir une sorte d'équilibre.
De sécurité collective.
Une sécurité collective et qui est marquée par l'absence de prépondérance. Vous voyez, puisque désormais il n'y a pas d'autorité au-dessus des princes européens, ni l'empereur, ni le pape, il n'y a pas de confession commune, il n'y a pas d'instance juridique jusqu'au XXe siècle qui puisse proposer ses services pour établir la paix. Eh bien, il faut une raison, il faut des pratiques diplomatiques, il faut l'idée d'une règle commune. Et c'est un peu ce que proposeront certains penseurs progressivement, l'idée de paix perpétuelle fondée sur une police européenne, une association d'États qui maintient l'ordre en quelque sorte, qui maintient l'ordre entre les États.
De fait, vous posez une continuité entre l'ONU aujourd'hui, la Société des Nations entre les deux guerres et l'époque ?
Ah, je crois qu'en effet, je crois que la diplomatie et en général la réflexion politique suppose la durée. La diplomatie française, par exemple, obéit à des règles qui se maintiennent sur plusieurs décennies et parfois plusieurs siècles. Regardez les bons rapports avec l'Empire ottoman, les bons rapports de la France et de l'Écosse. Vous avez évoqué les bons rapports avec les princes protestants. Ce sont des lignes qu'il faut maintenir avec le temps. Alors bien sûr, les événements, l'évolution historique conduisent à des changements. La France s'est opposée pendant longtemps à l'Angleterre, puis elle s'est opposée à l'Allemagne, avec cette notion un peu étrange d'ennemi héréditaire que je récuse, mais qui montre bien qu'il y a aussi des inimitiés qui peuvent durer. Mais il y a aussi des alliances qui durent, et des alliances très fortes. Il y a aussi des systèmes européens qui sont nés très tôt, des réflexions qui sont nées très tôt, qui, bien sûr, ne se sont pas établies très vite, mais en quelque sorte, le monde diplomatique, cette société des princes que j'ai décrite, ce petit monde des négociateurs dont Rousseau se moque en disant que ce sont des gens qui ne s'intéressent qu'à aux formes, eh bien les formes sont des gages de paix, c'est la politesse des nations, les formes. Mettre les formes, c'est parfois éviter un conflit, éviter un incident, éviter une cause de guerre. Les conventions, les codes sont aussi une façon de maintenir le dialogue international. Donc c'est pratique diplomatique jusqu'au XXe siècle ont été finalement le moyen de maintenir le dialogue entre ces États qui sont devenus des États-nations, qui sont parfois devenus des empires et dont finalement la pente naturelle était à s'affronter. Et on voit bien que c'est le XXe siècle, devant le carnage de la Première Guerre mondiale, qui a été amené à penser justement une véritable Société des Nations. Mais le mot Société des Nations apparaît déjà dans les écrits de l'abbé de Saint-Pierre.
Alors précisément, vous évoquez notamment le Congrès de Vienne, c'est le retour de la diplomatie. Au Congrès de Vienne, la France a pu venir à la table des négociations. C'est l'erreur, un siècle plus tard, du traité de Versailles, de ne pas avoir accepté en quelque sorte l'Allemagne à la table des négociations et ne pas avoir su oublier finalement.
Oui, ça je crois qu'en effet, il ne faut pas juger, je crois qu'on ne peut pas juger ce qu'ont fait nos aïeux, nos ancêtres, mais indéniablement l'idée des congrès de paix, c'est bien d'associer tous les belligérants et beaucoup plus probablement que à l'époque contemporaine, malgré toutes les tensions, malgré la durée des conflits, tous les traités s'efforcent d'évoquer une forme d'oubli. Il faut oublier tout ce qui s'est passé. Il faut d'ailleurs oublier les différends, les litiges. Très, très concrètement, ça signifie qu'on ne doit pas invoquer des problèmes qui ont eu lieu pendant la guerre pour faire des procès, par exemple. Et un signe qui m'a toujours, et c'est pour cela que j'ai parlé de Société des Princes, mais ces mariages, par exemple, tout de suite après les paix, l'idée qu'une paix se prolonge par une union qui symbolise justement cette sorte de réconciliation. Regardez le grand conflit franco-espagnol qui a pratiquement duré aussi longtemps que même plus longtemps que la vie de Louis XIV. Le conflit commence en 1635, Louis XIV naît en 1638, et très tôt, on commence à penser à un mariage du jeune Louis XIV avec une infante d'Espagne. Et pourtant, cela n'aura lieu que beaucoup plus tard. Cela n'est négocié à la paix des Pyrénées, à partir de 1659. Donc, vous voyez, il faut beaucoup de temps, mais en même temps, après 25 ans de guerre, eh bien, il y a un mariage franco-espagnol, célébré avec pompe et faste. Donc il y a bien une sorte de volonté d'oublier. Alors il est intéressant de se demander à quel moment et pourquoi il y a cette idée de revanche qui s'établit. Alors probablement à partir du moment où justement les peuples commencent à être intéressés au conflit, où justement on ne peut pas revenir sur plusieurs années, parfois plusieurs décennies, de mobilisation, de mobilisation intellectuelle, morale, financière, humaine. On ne peut pas oublier. Et l'idée de revanche, à ce moment-là, réapparaît et devient une sorte d'engrenage de la guerre. Vous voyez, là, nous sommes bien dans un autre schéma qui me paraît être l'engagement des nations derrière les États, derrière les souverainetés. Et cet engagement, nous vivons encore dans l'ère des États-nations, mais nous voyons bien aussi que nous essayons de réfléchir à, finalement, une autre organisation que celle de l'État-nation. Nous sommes obligés d'y songer parce que les échanges se sont multipliés, parce que l'on réfléchit désormais à l'échelle du monde. Ce ne sont plus forcément les mêmes puissances, les mêmes États qui deviennent les acteurs prépondérants. Et il est bien nécessaire, tout en considérant que l'État-nation existe, il est encore très, très présent, mais on voit bien qu'il est soumis à des difficultés, à des conflits, à des solidarités qui échappent totalement aux organisations anciennes.
Eh bien, Lucien Mali, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Je voudrais laisser nos auditeurs sur cette volonté pacifique qui va à l'encontre de cette non-capacité à oublier les divergences. Je rappelle les références de vos ouvrages. Tout d'abord, il y en a de nombreux. Je renvoie nos auditeurs à notre site internet. Mais je voudrais citer tout particulièrement « L'art de la paix » en Europe, naissance de la diplomatie moderne entre les 16e et 18e siècles, paru au PUF dans la collection Le Nœud Gordien, et l'ouvrage que vous avez dirigé, L'Europe des traités de Westphalie, un ouvrage indispensable pour toute personne qui s'intéresse à l'histoire des relations internationales, Esprit de la diplomatie et diplomatie de l'esprit, chez le même éditeur, donc aux Presses universitaires de France. Merci beaucoup, Monsieur Belli, et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.